Vous écoutez
RMC.
Lundi 26 septembre,
l'info sur RMC.
Dans un instant, il sera 8h sur RMC et RMC Story. Excellent réveil, très belle matinée à vous tous. C'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Julien Bayou démissionne d'Europe Écologie Les Verts une semaine après les accusations de violence morale. Il reste par contre député. Dans un quart d'heure, Elisabeth Borne invitée, exceptionnelle d'RMC, le pouvoir d'achat, les retraites, le budget. Une semaine décisive pour le gouvernement. Et puis cette information RMC, ses implants contraceptif provoquait des douleurs intenses. Le laboratoire Bayer jugé la semaine prochaine, 183 plaignantes.
Et on vient donc de l'apprendre, Julien Bayou démissionne de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.
Communiqué publié ce matin. Bonjour Pierrick Bonneau.
Bonjour.
Julien Bayou en difficulté depuis une semaine après avoir été publiquement accusé de violence morale sur son ex-compagne.
Oui, dans ce communiqué, le désormais ex-secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts précise qu'il a annoncé ce matin sa décision aux adhérents de son parti avant, dit-il, d'annoncer au groupe écologiste à l'Assemblée qu'il en quittait la présidence. Julien Bayou, en revanche, reste député. C'est en tout cas ce qu'il écrit. Il va continuer à siéger à l'Assemblée. Le leader écologiste parle d'une situation intenable. Je ne peux pas me défendre puisqu'on refuse de m'entendre sur des faits dont mes accusatrices et accusateurs disent qu'ils ne sont pas pénalement répréhensibles. Voilà ce qu'on peut lire dans ce communiqué. Le contexte délétère semble empêcher tout discernement, poursuit Julien Bayou, dans un moment où la société bascule et cherche le point d'équilibre pour cette si nécessaire révolution féministe. Fin de citation. Le député de Paris donnera une conférence de presse cet après-midi. Midi à 16h.
Pierrick Bonneau du service politique d'RMC. Dans moins d'un quart d'heure maintenant, Elisabeth Borne, invitée exceptionnelle d'RMC, un face-à-face avec Apolline de Malherbe de 40 minutes alors que débute une semaine décisive pour le gouvernement. Présentation du budget, réforme des retraites, manifestation à l'appel de la CGT ce jeudi. Voilà pour le contexte explosif. La Première ministre en première ligne. Et pourtant, elle a du mal à se faire connaître. C'est ce qu'a constaté Nicolas Traîneau à Meaux, en région parisienne pour RMC.
Première étape au bar tabac Saint-Rémy, où peu de clients connaissent son nom ou son visage photographié en pleine page dans le journal du jour.
C'est la Borne.
Raté.
Comment elle s'appelle, elle? Non, mais c'est qui, elle? Attends, je...
Elisabeth Borne est plus connue chez le coiffeur.
Bonjour.
Les deux clientes l'identifient très bien. Il y a Ginette, cheveux courts.
Il y a un petit air, non, avec votre coupe de cheveux?
Si je ressemble, c'est pas compliqué.
Elle est assez sévère, mais bon, elle a l'air assez sérieuse quand même.
Cette image négative, pour certains, n'est pas un inconvénient pour tout le monde.
Elle a l'air assez stricte avec ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui est plutôt droit dans ses bottes, dans ses idées. C'est plutôt un atout.
Avec de plus en plus d'opinions favorables, la première ministre grimpe dans les sondages et rattrape le président.
Elle a les compétences et la bonne posture.
Et sa méthode, répétée dans toutes les interviews, la concertation, consultée au-delà de son propre camp, Nathalie apprécie l'idée.
S'il n'y a pas de communication, on ne va pas avancer. Moi, ça me plaît.
L'électrice de gauche à la table derrière ne croit pas à cette ouverture.
C'est le bon petit soldat de M. Macron.
Persuadée que la première ministre, présentée comme la caution de gauche du gouvernement, n'aura pas souvent le dernier mot face au président.
Dans moins d'un quart d'heure, donc, Elisabeth Borne sur RMC. Et vous aussi, vous pouvez lui poser toutes vos questions au 32-16. On va prendre maintenant la direction de l'Italie. Giorgia Meloni a remporté son pari. L'extrême droite arrive au pouvoir. Un parti issu du fascisme prêt à gouverner. Ça n'était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Sa coalition d'extrême droite a remporté entre 40 et 44% des voix. Romain Cluzel, vous êtes en direct de Rome pour RMC. Vous avez suivi la soirée électorale au QG de Fratelli d'Italia. Avec Giorgia Meloni au pouvoir, qu'est-ce qui va changer en Italie?
Alors le premier dossier sur la table de la future présidente du Conseil, c'est la lutte contre l'inflation. Pour cela, Giorgia Meloni souhaite baisser les impôts et les cotisations sociales des entreprises et créer un prix plafond pour le gaz, soit au niveau européen, soit au niveau national. Giorgia Meloni est aussi ultra conservatrice. Elle souhaite restreindre l'accès à l'avortement et inciter les femmes à garder leur enfant, par exemple en proposant une aide financière ou en garantissant leur emploi. Son objectif, relancer la nativité dans un pays vieillissant. Son discours sur l'immigration est très ferme. Elle propose un blocus naval pour empêcher les bateaux d'atteindre les côtes italiennes. Enfin, et c'est l'une des priorités de Giorgia Meloni, elle veut renégocier certains accords avec l'Union européenne. Par exemple, les conditions du plan de relance. L'Italie bénéficie de 200 milliards d'euros d'aide, une manne vitale pour le pays. La crainte de plusieurs dirigeants européens, c'est de voir Giorgia Meloni engager un bras de fer avec Bruxelles.
Romain Cluzel, envoyé spécial d'RMC en Italie. Cette question à présent, le procès de Mias va-t-il reprendre sans la conductrice. Aujourd'hui, il avait été suspendu jeudi après son infarctus en pleine audience. Elle s'est effondrée au moment où elle devait expliquer ce qu'elle avait vu ou non avant la collision du car scolaire avec le TER. Selon son avocat, elle a été victime du syndrome du cœur brisé. Pour le père de l'une des 6 victimes, un procès sans elle n'aurait plus de sens.
Le problème que celle n'est pas là, donc il n'y a plus d'intérêt en fait de faire ces témoignages. Il y aura un intérêt pour nous parce que c'est vrai que ça nous libère notre conscience, mais on voudrait qu'elle entende ce qu'on a à dire. Il faut qu'elle soit présente pour entendre justement ce qu'on a sur le cœur. Voilà, c'est tous les reproches qu'on peut faire par rapport à l'accident, c'est tout notre ressenti, c'est le manque de ma fille personnellement. Ça nous chamboule complètement, ça nous perturbe mentalement, donc quelque part il y a ce côté compliqué. Ensuite, s'il n'y a pas de report, ça veut dire qu'elle va être absente, parce qu'apparemment, elle va être absente déjà lundi. Vous comprenez que ça va être compliqué.
Le procès est normalement prévu jusqu'au 7 octobre. Et c'est une information RMC. Le laboratoire Bayer, jugé lundi prochain suite au scandale des implants contraceptifs. Ces implants qu'on appelle Essure, portés quand même par 200 000 femmes en France et responsables de graves effets secondaires. Ils avaient même été retirés du marché en 2017. Élise Dangean, les plaignantes, réclament qu'on reconnaisse leur calvaire.
Absolument, elles sont 132 au total et réclament la reconnaissance d'un préjudice d'anxiété en attendant que le lien entre l'implant Essure et les effets indésirables soit formellement établi. Elles sont défendues par maître Charles-Joseph Houdin.
En réalité, cette procédure vise à démontrer que ces femmes ont été exposées à un risque, qu'il se soit traduit ou non par des effets indésirables. Il a au minimum engendré une inquiétude de développer des effets indésirables.
Depuis 2018, le dispositif n'est donc plus commercialisé, mais des femmes continuent de découvrir des effets secondaires, douleurs abdominales, fatigue chronique, maux de tête. C'est le cas d'Irène qui n'a fait le rapprochement qu'en début d'année.
Je me suis rendu compte au fil du temps que j'avais implanté une bombe dans mon corps. C'est quelque chose qu'on a posé en nous parce qu'on aimait la vie, parce qu'on avait envie d'en jouir avec un dispositif de contraception qui nous permettait d'avoir une sexualité épanouie. Et paf, comme toutes les autres violences gynécologiques, ça nous rabote la vie, quoi.
Aujourd'hui, Irène prévoit de se faire retirer son implant. 30 000 femmes en France l'ont déjà fait. Une étude sera lancée par le ministère de la Santé l'année prochaine.
Merci beaucoup Élise Dangean. Information RMC. Le foot à présent avec cette défaite pour les Bleus à 2 mois du Mondial. C'était hier au Danemark, 2-0 en dernière journée de Ligue des Nations. Beaucoup de blessés et une équipe inexpérimenté, c'est vrai, mais pas que. Ce match doit être une piqûre de rappel. C'est Antoine Griezmann qui le dit. Il a été pour la première fois le capitaine des Bleus.
On n'a pas été bon et ça peu importe les joueurs, c'est la mentalité. On n'a pas été bon non plus dans les duels. Devant, on a été un peu timide, on a raté les derniers gestes. Donc voilà. Mais ça nous fait du bien avant la Coupe du Monde. On a le groupe et le coach pour viser très haut. Donc à nous de travailler, de tout mettre en place pour être prêt pour la Coupe du Monde.
57 jours, tout pile avant le premier match des Bleus à Doha contre l'Australie. On y croit. Et puis, ce test pour sauver l'humanité. La nuit prochaine, la NASA va faire s'écraser un vaisseau sur un astéroïde pour tenter de dévier sa trajectoire. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est en gros ce que nous explique Philippe Dronneau, directeur chargé de la mission à la Cité de l'Espace.
En allant impacter en fait cette petite lune de cet astéroïde, on va pouvoir voir quel est le type d'impact concret, quelle est l'énergie qui est libérée, et surtout ensuite savoir si on a pu modifier sa trajectoire. Voilà une première étape pour que peut-être d'ici 50 ans ou d'ici 30 ans, 40 ans, on se dise oui, il y a un problème qui va arriver. On pourrait avoir des satellites en orbite, hein, déjà sur des trajectoires prêtes à intervenir pour pouvoir tenter de faire quelque chose.
Pour éviter la catastrophe. Et si vous voulez suivre ce scénario digne de la science-fiction, c'est en direct sur la chaîne vidéo de l'agence américaine la nuit prochaine. Donc,
c'était donc le journal de Marguerite Dumont.